Critique.
Critique.
Bonus de l'émission Critique, on recevait cette fois Saïd Bouamama. Alors Saïd Bouamama, vous allez passer, je crois, en janvier prochain, donc dans moins d'un an, janvier 2015, en procès, pour une histoire de racisme anti-blanc. De quoi il s'agit ?
Il y a maintenant 2 ans, un groupe de rap est venu me voir, qui était le groupe ZEP, me disant qu'ils constataient dans les quartiers populaires, et je leur disais que j'étais pas du tout étonné, que de plus en plus d'habitants des quartiers populaires, et de jeunes en particulier, utilisaient l'expression « nique la France ». Et que, généralement, effectivement, ils étaient considérés comme des violents, des non-intégrés, etc. Et qu'ils avaient envie d'écrire, enfin, de faire un CD et de l'accompagner, de manière inédite, d'un petit livre où les chansons faisaient écho à des textes.
Et des photos.
Et des photos. Soulignant pourquoi. Pourquoi des jeunes en arrivaient aujourd'hui à dire « nique la France » en réponse à quoi ? Et cette violence du dominé, puisque dans le « nique la France » il y a une dimension de réaction, etc. Ben justement, en quoi elle était le résultat de la violence des dominants, de ce que subissaient ces jeunes
le
dans les discours, etc. Voilà, c'est le « je t'emmerde » de Césaire. Et donc j'ai bien entendu accepté de répondre à cette demande. Et ça a donné naissance donc à un livre et à un CD sur lequel nous sommes attaqués par la bonne extrême droite, la griffe. Hein, donc c'est la bonne extrême droite, hein, c'est qui nous accuse d'être des racistes anti-blancs, exactement comme dans le livre, nous montrons que dès qu'un dominé lève la tête, il devient lui-même responsable, c'est-à-dire qu'on inverse l'accusation. On a la même chose sur le droit des femmes, hein, quand les femmes se battent, on a d'un seul coup des hommes qui disent mais il est droit des hommes, donc on inverse les choses et ce sont les féministes qui deviennent des hystériques, etc. Et bien là, on a la même chose pour nous, nous dénonçons les inégalités liées à l'origine. Et on devient nous-mêmes racistes anti-blancs.
Alors il y a au moins un précédent, c'est celui du procès de Rouya Boutelja,
voilà.
Qui avait été attaquée, elle, parce qu'elle avait traité, entre guillemets, des blancs de sous-chiens.
On a en face de nous...
Mais sous-chiens en un mot. Hein,
on a en face de nous plein de gens qui parlent de français de souche. Et donc on peut se demander, les autres français, c'est quoi ? Des français de feuillage, peut-être ? Il y a la souche et le feuillage. Et donc tout le monde utilise ça, au niveau des ministres utilisent ça, etc. Et elle reprend ça pour montrer que c'est ridicule. En inventant le terme sous-chien, et ça devient une insulte, et elle est attaquée pour cela.
Enfin, le procès a été perdu, donc elle n'a pas été condamnée.
Elle a été attaquée, et ça a été perdu. Donc nous passons en procès en janvier 2015, nous ferons un appel à la solidarité, parce que bien entendu, derrière cela, c'est toute la liberté d'expression qui est posée, mais c'est surtout la criminalisation de la révolte des dominés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un utilisera une forme de révolte qui ne rentre pas dans les canaux de la politesse, sauf il n'y a que ceux qui sont tranquilles dans leur vie qui peuvent être polis. Hein. Quand on est mal, quand on est détruit, quand on est violenté, etc., eh bien, la politesse n'est pas une arme.
Et derrière, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, le seul antiracisme légitime serait celui qui ferait alliance avec des blancs.
Absolument.
Alors que c'est quelque chose qui est largement critiqué, notamment par Malcolm X. Alors vous l'évoquez, et c'est aussi au cœur de l'ouvrage de Sadri Khiari qu'il consacre à Malcolm X, qui s'appelle Malcolm X, qui est paru aux éditions Amsterdam. C'est aussi au cœur de la pensée de Steve Biko. Est-ce qu'on peut développer un peu cette question ?
Oui.
Pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire ou pas naturel de faire alliance avec des blancs, avec des dominants ?
C'est parce que nous ne sommes pas encore sortis de la relation dans laquelle certains prétendent avoir le savoir et veut dire à d'autres qui eux souffrent, qui eux sont exploités sur une domination, qu'ils ont prétendent avoir une meilleure solution que les premiers concernés.
Mais ma question en fait, c'est pourquoi est-ce que c'est par exemple évident que des prolétaires ou des ouvriers ne vont pas faire alliance avec un patron, mais que c'est moins évident quand il s'agit de la question du racisme ?
Parce qu'il y a un héritage colonial. Parce qu'aujourd'hui, on continue à considérer les quartiers populaires et les personnes issues de l'immigration, quand bien même seraient-elles françaises depuis X générations, comme des personnes incapables de penser, comme des personnes incapables de savoir ce qui est bon pour elles, et que certains prétendent savoir mieux que les premiers concernés ce qui est bon pour elles. Toute l'histoire du mouvement féministe, ça a été de montrer que, laissez-nous, nous sommes capables de penser, si vous voulez nous soutenir, eh bien, soutenez nos revendications, ne venez pas nous dire quelles doivent être nos revendications. Eh bien, pour cette partie de la population, les quartiers populaires et les jeunes issus de l'immigration, ça, c'est pas encore acquis que ces personnes-là peuvent organiser leur lutte, élaborer leurs revendications et être maîtresses de leur destinée. Ça, c'est pas encore acquis. On les considère encore comme des incapables de penser par eux-mêmes.
Et c'est une vraie ligne de fracture, parce qu'on se souvient par exemple que récemment, quelqu'un comme Pascal Blanchard a signé une pétition avec Caroline Fourest dénonçant le racisme et l'antisémitisme, mais se gardant bien de mentionner l'islamophobie.
Absolument, absolument. Et malheureusement, on ne peut pas le limiter à cette ligne de fracture-là. On ne peut pas la limiter au clivage habituel. Hein, ça déborde, et je pense que c'est une des raisons du marasme politique dans nos pays. Un certain nombre de thématiques que la droite instrumentalise et que l'extrême droite instrumentalise imbibent jusqu'à la gauche et l'extrême gauche.
Bonjour à vous, Saïd Bouamama, bonjour.
Bonjour.
Tout au long de cette émission critique, vous avez parlé de la question des mémoires, et puis évidemment aussi de la question de la révolution. Alors je voulais vous parler de ce livre qui vient d'être publié conjointement par les éditions Aldint et La Voix des Roms, un livre qui a pour titre Avava Ovava. Et dans ce livre, il est question d'une visite à Birkenau, où il est question de la mémoire de l'extermination de la population de Tziganes pendant donc la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce moment, les auteurs de l'ouvrage s'arrêtent sur un moment précis qui est le moment de l'insurrection des Tziganes dans le camp de Birkenau. Et je trouvais cela intéressant parce que ça sortait la question des Tziganes et des Roms de la simple figure de la victime, mais ça les mettait dans une figure tout autre qui était celui du point levé, du soulèvement, de la révolte et donc aussi du sujet politique d'une certaine manière. Alors j'aurais aimé avoir un peu votre regard ou votre parole sur cette manière au rapport à la mémoire de qu'y a-t-il à choisir dans la question de la mémoire et qu'est-ce que cela engage quant à la question d'un devenir.
Alors vous citez une association qui est importante pour moi. La Voix des Roms, ce sont vraiment pour moi des camarades et des alliés politiques, parce que je pense que c'est les seuls aujourd'hui sur la question Rome à poser la question de la place des premiers concernés et à ne pas se positionner en termes d'attente que l'on s'occupe de la question Rome, mais en termes d'exigence de droit à titre égalitaire. Et à ma connaissance, je ne connais pas tout, à ma connaissance, c'est la seule organisation de Rome qui se situe sur une optique complètement égalitaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont aussi caricaturés, etc. La seconde chose qui me semble essentielle, c'est effectivement ce que vous avez souligné sur l'insurrection, c'est que à chaque fois que l'on part d'une situation d'un dominé, sans montrer sa résistance, on mutile la réalité. Jamais, parce qu'on pourrait sous-entendre qu'il y aurait eu des personnes, individuelles ou collectives, qui à un moment donné auraient agréé leur domination. Ça n'a jamais existé. Que la forme de résistance n'ait pas été capable de vaincre la domination, c'est autre chose. Mais jamais on a connu, en tout cas dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais connu une oppression, une domination qui n'ait pas suscité de la résistance. Et à chaque fois qu'une catégorie se voit présentée uniquement comme victime, uniquement sous la forme de la compassion, uniquement sous la forme de la commisération, eh bien, c'est une manière de les considérer comme non-acteurs de leur histoire. En réalité, toutes les formes de résistance ont besoin d'être dites en premier pour qu'ensuite on puisse analyser. Eh bien, quelles sont les revendications légitimes, quelles sont les formes d'alliance, etc. S'il n'y a pas résistance, ça voudrait dire qu'il y aurait eu acceptation. Les dominants essayent toujours de faire passer leur domination comme étant le résultat d'une passivité, d'un consentement parfois, etc. L'insurrection des Roms montre que pour les Roms aussi, mais c'est pas étonnant, eh bien il y a eu une domination, il y a eu une oppression, il y a eu une violence qui a suscité de la résistance.
Merci beaucoup, Saïd Bouamama.
Merci.
C'était le bonus de l'émission Critique.
Critique.